la matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris. L'actu engagée.
Un petit village antifasciste vers la Sorbonne.
La culture décalée.
J'ai découvert ses albums et j'ai pété une pile.
Les sujets étudiants.
Pour moi, la démocratie étudiante, elle se fait dans les AG, dans les mobilisations.
Et ce qui se passe en Ile-de-France.
Le but, c'était en fait de préserver les terres agricoles autour de la capitale.
Du lundi au jeudi, de 19h à 20h, sur Internet, sur le DAB+, et sur le 93.9 FM.
On va parler un tout petit peu de football pour commencer, promis un tout petit peu, hein, mais c'est dingue et je vous promets que ce n'est pas un poisson d'avril. Ça aurait été plus simple, mais non. Hier soir, l'Italie ne s'est à nouveau pas qualifiée pour un mondial de football. Pour le contexte, la prochaine Coupe du Monde de foot, c'est en juin. Pour la première fois, il n'y aura pas 32 mais 46 équipes. Une Coupe du Monde co-organisée par les États-Unis, c'est terrifiant, le Canada et le Mexique. Les équipes principales comme la France, l'Espagne, l'Argentine ou le Brésil s'étaient déjà qualifiées du premier coup il y a plusieurs mois par le premier tour de qualification. Facile, normal pour les grandes équipes. Les Italiens avaient déjà subi un premier coup d'arrêt, finissant deuxième de leur groupe qualificatif, ce qui signifiait donc une phase de barrage en octobre dernier. Et c'était hier soir cette phase de barrage. Les joueurs de la Squadra Azzurra sont allés s'enliser à Zenica en Bosnie-Herzégovine, dans l'enceinte du modeste stade, alors vous me pardonnerez la prononciation, de Bilino Polier, de 15 000 places, plus petit que le stade de Guingamp par exemple. Cela avait tout d'un plan bourbier, pas de goal line technologie, donc on vérifie à l'œil nu si le ballon est rentré dans le but ou non. Ça commence bien. Un arbitrage vidéo de fortune, notre cher français Clément Turpin à l'arbitrage et un public de bons vieux ultras, crâne rasé et torse nu par 3 degrés. Pour le match, l'Italie ouvre le score 1-0, on se dit que ça sent bon, et puis patatras, un carton rouge à la 40e, une égalisation des Bosniaques à 10 minutes de la fin, une séance de pénalty remportée par les joueurs d'Edin Dzeko, un nom très peu italien. Vous l'aurez compris, terminé pour l'Italie, on rentre à la maison. Il faut saluer les joueurs de la Bosnie quand même, c'est un bel exploit pour eux. Mais quel sort a frappé les Italiens, 4 fois champions du monde? Eh bien c'est peut-être un petit retour de karma finalement, et on en est chauvin, on va pas s'en plaindre. Ils avaient battu la France de Zizou et son fameux coup de boule en 2006 en finale. Depuis, regardez, c'est simple, le mondial 2010 en Afrique du Sud, eh ben l'Italie ne sort pas des groupes. Au Brésil en 2014, pareil. En Russie en 2018, la Squadra ne se qualifie même pas pour la compète. Au Qatar en 2022 non plus, et comme vous l'aurez bien compris cette année, eh ben c'est pareil. La dernière fois que l'Italie a joué la Coupe du Monde, j'étais en 6e au collège, Mbappé était en 2e, l'iPhone 6 allait sortir, Macron n'était même pas encore ministre de l'économie. Bravo l'Italie, fallait pas énerver Zidane. Bon ok, j'avais 3 ans, mais j'ai encore un peu mal. Et ce soir au programme de la matinale, nos généreux bénévoles vous ont concocté de nombreux sujets. Pour le premier zoom de la soirée, nous recevons juste après ce sommaire Madeleine Varin qui vient nous parler du Susur Festival. Et c'est Betty qui va mener l'interview. Vladimir présentera ensuite le Flash Info avant de nous lire la chronique actu de Nancy qui portera sur le retour des rhinocéros blancs au sein d'un parc national en Ouganda après une absence de 43 ans. Pour le second zoom, Laetitia a préparé plein de questions pour Antoine Dely, un artiste qui vient tout juste de sortir ce nouvel EP. On finira par la chronique libre de Fabien qui nous fera un quiz actu sous l'égide du poisson d'avril. Bien évidemment, on n'allait pas y échapper. Il est 19h04, on va rester ensemble jusqu'à 20h sur le 93.9 et sur radiocampusparis.org.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Dans quelques semaines aura lieu la première édition d'un festival de podcast produit par la Gaîté Lyrique. Ça s'appelle le Susur Festival et c'est le 25 et 26 avril prochain. Pendant 2 jours, créateurs et auditeurs pourront participer à des sessions d'écoute et écoute immersive, des enregistrements publics, des ateliers de création sonore et autres moments festifs. Madeleine Varin est venue pour nous en parler dans ce premier Zoom de la soirée. Bonsoir Madeleine.
Bonsoir.
Et bonsoir Betty, je te laisse la parole.
Bonsoir Madeleine, merci d'être avec nous. Donc on va parler en effet du Susur Festival qui a lieu donc du samedi 24, je le rappelle pour nos auditeurs parce que là ils sont en train de prendre leur stylo et noter dans leur injada que ça se passe donc le samedi 24 et le dimanche 25 avril à la Gaîté Lyrique, dans la Gaîté donc.
Absolument.
Et c'est totalement gratuit, je voulais le préciser aussi avant toute chose. À quoi peut s'attendre le visiteur slash auditeur du festival Susur?
Alors merci, je suis ravie d'être là pour en parler déjà. On avait envie avec ce nouveau format d'avoir un rendez-vous pour célébrer le podcast en tant que média de l'intime et de l'engagement. C'est des sujets et des questions qui nous sont chères à la Gaîté. Donc voilà, on propose ce festival fait maison pour célébrer le podcast. et s'emparer des grandes questions de notre époque pour permettre à d'autres de mieux la comprendre. Et c'est un peu à l'image de ce qu'on essaye de faire à la Gaîté, donc de faire de dialoguer la création et engagement.
Sachant que le podcast est déjà présent à la Gaîté, puisqu'il y a déjà des écoutes qui sont organisées avec Arte Radio, etc., etc. Mais qu'est-ce que ce festival permet en plus, en fait, que ces écoutes d'émissions qui sont faites dans ce cadre?
Tout à fait. Le podcast est très présent à la Gaîté depuis des années. On a coproduit le Paris Podcast Festival, notamment pendant des années. Et puis, effectivement, là, on a lancé un appel à projet aussi qui invite les auteurs, autrices de podcasts à venir enregistrer leur podcast et créer leur podcast dans le studio de podcast de la Gaîté. On en retrouvera d'ailleurs deux dans la programmation du festival.
Super.
Comme tu le disais, on va avoir plusieurs formats sur ce festival-là. Donc on aura effectivement des sessions d'écoute, des écoutes commentées, des écoutes au casque, des enregistrements publics de podcasts, format de sieste sonore, d'ateliers, de moments festifs, etc. On pourra, parmi du coup les podcasts qui s'enregistrent à la Gaîté, on en aura deux, et notamment le podcast Propaganda de Claire Touzard, qui s'intéresse à la vérité et qui donne la parole à des lanceurs et lanceuses d'alerte. Et puis un second qui est La mort est mon ami, qui s'intéresse à la question au rapport à la mort et au deuil, avec Mead en invité.
Mead, DJ, du coup. Enfin,
oui,
pour les personnes qui ne connaissent pas, pardon.
Tout à fait, Mead le musicien. On a eu envie sur ce temps-là de rassembler tout l'écosystème podcast de la Gaîté Lyrique à travers donc cette résidence dont je parlais, mais aussi avec les partenaires de la Gaîté, et notamment les partenaires fondateurs. On a Arte qui fait partie des partenaires fondateurs avec quatre autres partenaires que sont Artifarty, l'acteur culturel lyonnais qui en est à la présidence, l'ONG Singa, l'association Make Sense, et enfin la maison d'édition Actes Sud. Donc évidemment, on va avoir des podcasts avec Arte Radio, et notamment le super podcast Tombé Love de Anissa Rami, qui fait parler les rappeurs et les rappeuses d'amour. Donc on aura un enregistrement public le samedi. Et puis un nouveau podcast aussi, Je ne suis pas folle, de Gabrielle Niang,
okay,
qui se lance.
Et cette année, la thématique phare du festival, c'est la santé mentale. Pourquoi vous avez imaginé cette thématique comme la première thématique? Enfin, c'est la première édition, donc c'est quand même fort de donner comme thématique la santé mentale. Pourquoi cette thématique-là? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu, peut-être?
C'est un sujet qui est assez qui est très important, qui est représenté dans la programmation même de la Gaîté Lyrique, avec des rencontres, des projections, entre autres. Et puis c'est un sujet qui est largement représenté aussi dans le podcast, presque dès sa création, en tout cas dès sa démocratisation. Donc ça avait un sens particulier de s'intéresser à cette thématique pour la première édition. Et puis on peut, avec cette thématique, tirer des fils qui sont aussi des sujets largement abordés dans le podcast. On parlera par exemple des questions de thérapie, d'amour, donc d'amitié, d'intimité des femmes, des nuits queer, de la position des dents, des violences évidemment aussi, notamment dans la famille, ou le rapport à la mort, à l'alcool, à la fête, ou à la famille. Donc c'est un peu à l'image de ce qu'on essaye de faire aussi à la Gaîté, c'est-à-dire d'être à la fois un espace où on prend le temps de se questionner sur ces grandes questions qui nous occupe à notre époque, et donc d'aborder les questions de justice sociale et climatique, des questions de migration, de rapport au genre, lutte féministe, questions de démocratie, d'indépendance des médias notamment, et donc ce, cet espace le permet, on a envie d'être à la fois un espace refuge pour accueillir ces réflexions.
Et, ouvert à toutes et tous.
Exactement. Et à la fois d'être continuellement ouvert sur le monde et aux autres.
Ok. Et pourquoi avoir appelé ce festival Susurrer ? Parce que susurrer, c'est quand même un mot pour les auditeurs qui nous écoutent. C'est vrai qu'on a pas trop l'habitude de l'écouter, enfin on sait ce que ça veut dire, donc c'est l'acte de parler à voix basse. Mm-hmm. Mais ce qui est quand même super intéressant dans l'acte de susurrer, parce que je pensais à ça quand j'étais en train de marcher jusqu'ici, c'est vraiment cette idée que c'est à la fois l'acte du locuteur qui parle, mais c'est tout autant l'acte d'écouter, puisque comme on parle à voix basse, enfin avec cette intensité sonore basse, eh ben on est d'autant plus amené, enjoint, à tendre l'oreille et donc à écouter. Donc je me disais, est-ce que c'était un peu dans cette idée, dans cette optique que vous aviez imaginé le titre, enfin le nom du festival, comment il était un petit peu arrivé ce titre, parce qu'il est très beau, si je puis me permettre.
Non, merci. oui, bah effectivement, il y a cette idée de avec le susurre, on sous-entend une certaine intimité aussi. C'est ce qu'on avait aussi envie d'appuyer avec l'édito, la raison d'être de ce festival, qui est avec le médium podcast, c'est via l'intime, souvent, que se transmet l'envie d'agir, l'envie de se mobiliser, la prise de conscience de certaines choses, l'organisation, la structuration de certaines luttes aussi.
Parce qu'on est dans une écoute active, il y a quelqu'un qui nous parle de son histoire, de son vécu, etc. Il y a aussi cette idée-là. Quoi.
Ouais. Et qui, en effet, se retrouve depuis les personnes qui parlent.
Exactement.
et qui transmettent leurs pensées ou leur intimité ou leur récit, leur expérience. Mmh. Et aussi de la part des personnes qui les reçoivent. Et d'ailleurs, c'est aussi un double aspect qu'on va pouvoir accueillir au sein du festival, notamment avec une configuration d'écoute au casque en face de notre studio de podcast. Et donc typiquement, on va être dans cette configuration-là d'intimité à l'intérieur de cette petite bulle qu'est le studio de podcast et d'intimité aussi par les personnes qui reçoivent en écoutant au casque ce qui se passe à l'intérieur et ce qui s'émet à l'intérieur du studio.
D'une émission qui est en train d'être faite en direct, du coup.
Tout à fait.
Ah ouais, super intéressant. Le slogan, pour aussi avancer sur cette idée de l'écoute active, susurrer, pas forcément besoin de crier, le slogan du festival cette année, il s'appelle, enfin je pense que ça va être le slogan ad vitam jusqu'à la fin, on ne souhaite pas la fin, mais en tout cas, c'est le slogan du festival, c'est pas besoin de crier pour se faire entendre. Comment vous est venue cette idée qui est super, super intéressante. Enfin, on n'a pas besoin de crier. En même temps, moi, ça m'a questionnée aussi parce que la radio, c'est quand même du son amplifié. Donc, on amplifie le son, on ne crie pas, mais il y a quand même une idée de se faire entendre. Je trouve ça super intéressant et je me demandais comment c'était un peu arrivé ce choix de slogan.
Alors là-dessus, je dois créditer Vincent Cavaroc, qui est le directeur artistique de La Gaîté et qui, en prenant la parole autour du festival pour la première fois lors de la dernière conférence de presse à La Gaîté, a naturellement eu cette phrase qu'on a repris ensuite effectivement comme baseline du festival. Pas besoin de crier pour se faire entendre et qui en fait... on peut se dire que dans une époque où on est envahi de bruit, d'informations, de personnes qui parlent très très fort pour pas forcément très justement en plus le fait de d'avoir un message ou en tout cas d'aller chercher soi-même, parce que c'est souvent le cas en tant qu'auditeur auditrice de podcast, on va aller à la recherche de tel contenu,
à la rencontre
et on va pouvoir avoir effectivement cette écoute active et encore une fois qui se transmet dans quelque chose de très individuel aussi quoi. Donc là il y a aussi l'envie avec ce festival de rendre l'expérience plus collective.
Super. Qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un pour motiver quelqu'un pour venir au Susurre Festival ?
Eh ben, si j'ai un petit peu le temps, je peux parler de la programmation.
Bien sûr, allons-y. Parlons de la programmation.
Donc effectivement, je l'ai cité, on a des podcasts avec Arte Radio, avec nos podcasts résidents, mais aussi avec des partenaires de programmation avec qui on travaille régulièrement. Je pense à Stencia Yambogaza et à son podcast Mental Health Radio. Sur Rins, je pense à Me, My Sex and I de Axel Jainjiki qui fait son grand retour autour de l'intimité des femmes avec Ma Marie en invité. Je pense au podcast Encore Heureux de Camille Test qu'on accueillait chaque mois pour des enregistrements publics à la Gaîté. Au podcast aussi qu'on a déjà accueilli de maintes reprises Craquer l'époque avec en invité Shora Makarimi sur la question iranienne. Un enregistrement public du podcast Loin des yeux, loin du cœur de Eva Sadoun autour de l'économie du cœur qui revient là pour sa deuxième saison. On aura Délire en partenariat avec le média Musae qui dédramatise la santé mentale et ce sera une rencontre autour des liens affectifs et la question de comment aimer quelqu'un qui souffre avec la Fabrique des soignants en invité qui est aussi dans les bureaux de la Gaîté car il fait partie de l'incubateur Média émergent du pôle d'accompagnement d'Artifarty. On aura le podcast Émotion de la série Émotion et la série pardon du podcast Émotion Le mal de mère de Louis Média à propos de la violence maternelle avec son autrice Chloé de Broca. On va parler du monde de la nuit avec Le Fumoir et notamment une productrice de musique électronique Vel. Les Enfermés qui parlent de récits d'enfermement, il y a un podcast qui est produit par Making Wave, un podcast La beauté du geste autour des professionnels du champ social et qui accompagne notamment les mineurs isolés. Comme un bruit de révolte autour des corps et de la mise en mouvement par un prisme politique. Nos chaînons invisibles qui parlent de la santé mentale des personnes adoptées. Et puis on aura d'autres formats un peu spéciaux. Je pense notamment à la messe des paillettes qui est une méditation participative avec notre collectif de drag préféré, les paillettes, pour nous mettre du baume au cœur collectivement en clôture du festival. On aura une rencontre avec Lorraine Bastide autour de podcast et santé mentale. Une carte blanche au festival marseillais Bruit Rose sur la santé mentale en Méditerranée. Et puis un format de sieste sonore que je mentionnais un peu plus tôt avec La Pieuvre et Romane Delors en invité.
Et ça, on peut tout retrouver, puisque le temps file, on peut tout retrouver tout est en ligne.
Absolument, okay. Aujourd'hui même.
Super. Eh bien super, c'est du samedi 24 au dimanche 25 avril, c'est à la Gaîté Lyrique et je vous enjoins très très vivement d'y aller faire un tour. Prenez peut-être votre casque.
Merci beaucoup Betty, merci beaucoup Madeleine Varin, je l'ai bien dit cette fois, qui est venue nous parler du Susurre Festival qui aura donc lieu du 24 au 25 avril prochain à la Gaîté Lyrique. Tout de suite une petite pause musicale, on va s'écouter Piazza Centrale de Gaia Banfi.
Si assorbe come l'argento che diventa nero e mi invecchia la pelle a guardare il cielo che diventa petrolio e si mischia la neve che arriva con calma nella piazza centrale. Ti somiglia a un paese con la sua chiesa centrale dove ti guardano tutti come guardo ogni particolare. Forse dovremmo scappare, amore nel silenzio che diventa morboso confuso ai passi dei vecchi della piazza centrale. Stretta dal sole senza l'aria.
c'était Piazza Centrale de Gaia Banfi. Vous êtes toujours bien sur Radio Campus Paris. Il est 19h23, on est ensemble jusqu'à 20h. C'est la matinale, tout de suite c'est le Flash Info de Vladimir.
Le Flash Info de la matinale de 19h.
Bonsoir Tom, bonsoir à toutes et à tous. À l'actualité ce soir, le constructeur automobile Stellantis organise ce mercredi le rappel de 700 000 voitures hybrides dans le monde entier pour un risque d'incendie, une information annoncée par l'autorité allemande de l'automobile sur son site. Le groupe, auquel appartient normalement, notamment les marques Peugeot, Citroën, Fiat, Alfa Romeo ou encore Jeep, organise ce rappel d'une ampleur rare suite au constat de 36 incidents dans différents pays, dont 12 débuts d'incendie. C'est un revers technique de plus pour le constructeur qui avait dû opérer ces dernières années de nombreux rappels suite aux problèmes rencontrés sur ses moteurs PureTech ou encore le scandale des airbags Takata. En France, Sébastien Lecornu annonce vouloir utiliser le surplus des recettes fiscales pour décarboner l'économie française. À l'occasion d'une réunion du gouvernement ce mercredi, le Premier ministre a promis d'utiliser certaines des recettes fiscales supplémentaires liées à la flambée des prix dans un contexte de guerre au Moyen-Orient pour électrifier l'économie du pays. Il a chargé le ministre de l'économie, Roland Lescure, de proposer une offre de location de véhicules électrique pour certaines professions. Le Rassemblement national accuse l'État de profiter de la crise en augmentant ses recettes, ce que réfute le gouvernement. La guerre au Moyen-Orient finit d'ici 2 ou 3 semaines, c'est ce qu'a évoqué Donald Trump mardi soir alors que Téhéran a été secoué par des nouvelles explosions et Israël visé par des missiles aujourd'hui. Le président américain, qui oscille depuis plusieurs semaines entre menaces et propos rassurants, a évoqué mardi soir une fin imminente du conflit en déclarant « Tout ce que j'ai à faire, c'est partir de l'Iran et nous le ferons très bientôt ». Déclenchée le 28 février par des frappes israélo-américaines, la guerre au Moyen-Orient, qui a fait des milliers de morts et ébranlé l'économie mondiale, ne montre pourtant aucun signe d'accalmie. Viser la Lune, ça ne leur fait pas peur. La deuxième mission du programme Artemis doit décoller dans la soirée de Cap Canaveral en Floride. 4 astronautes seront à bord pour survoler notre satellite naturel pour une mission qui durera 9 jours. L'équipage comprend 3 Américains et 1 Canadien. L'Américaine Christina Cook, 47 ans, deviendra la première femme à participer à une mission lunaire. Cette mission aura pour but de préparer le retour des Américains sur la Lune à l'horizon 2028. Et pour finir, du sport. C'est un immense coup dur pour l'équipe de football italienne. Battue par la Bosnie au tir au but en phase de barrage mardi soir, l'Italie manquera la Coupe du Monde pour la 3e fois de suite. Malgré une ouverture du score dans le premier quart d'heure de la rencontre, l'expulsion du défenseur central Alessandro Bastoni avant la mi-temps a mis l'équipe en difficulté. Rattrapée au score, la Nationale s'incline finalement au tir au but face à la Bosnie qui jouait à domicile dans le stade survolté de Zenica. Les Italiens, déjà absents des 2 dernières Coupes du Monde, vont à nouveau rater la compétition.
Merci beaucoup Vladimir pour ce Flash Info. N'oublie pas de mettre en ligne le podcast après, ne t'en fuis pas tout de suite. J'ai essayé quelques fois, je me suis toujours fait rattraper par Odéjane, nos chères coordinatrices. Tout de suite,
embrasse.
C'est la chronique actu écrite par Nancy et qui va être lue par Vladimir à nouveau. Tiens, au sujet du jour, les rhinocéros blancs sont de retour en Ouganda après une absence de 43 ans due au braconnage.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Rebonsoir. Alors ce soir, je prête ma voix à une chronique de Nancy qui nous vient tout droit de Belgique. Et on vous emmène loin de la météo nordiste pour rejoindre le climat de la savane en Afrique, plus précisément en Ouganda, dans le nord-ouest, au sein du parc national de la vallée de Kidepo. Si vous avez l'occasion d'aller voir des photos sur internet ou de regarder des documentaires sur ce parc, faites-le. Nous parlons ici de l'un des plus beaux parcs d'Afrique. Mais pendant très longtemps, dans ce décor de carte postale, il manquait un détail essentiel, le rhinocéros. Un grand vide, un silence imposant y régnait ainsi depuis 1983. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, le braconnage avait tout balayé et en l'occurrence, en 1983, le dernier rhinocéros à l'état sauvage est tué par balle. Depuis, plus de traces de cette espèce emblématique de la région. Mais grande nouvelle, cette semaine, tout a changé. Après 43 ans d'absence, les rhinocéros sont de retour chez eux. L'information nous vient de France TV Nature et d'Africa News. 8 rhinocéros blancs du sud, d'un ranch privé de l'Ouganda, le Ziwa Rhino Sanctuary, qui élève des grands mammifères depuis 2005, ont été relâchés dans la savane. 8 individus, c'est un convoi historique. On parle de camions blindés, de centaines de kilomètres de pistes et d'une logistique de dingue pour ramener ces colosses là d'où ils n'auraient jamais dû partir. Les autorités ougandaises du secteur ont salué de leur côté une journée historique pour le pays. James Musiguzi, le directeur exécutif de l'Uganda Wildlife Authority, explique que la zone de conservation était autrefois peuplée par le rhinocéros blanc du Nord. Sauf que, petit point historique, le rhinocéros blanc du Nord est une sous-espèce, elle aussi, en grand danger. Conséquence, là aussi, du braconnage. Et vous vous souvenez peut-être de Sudan. C'était le tout dernier mâle rhinocéros blanc du Nord. Il est mort en mars 2018, il y a 8 ans maintenant. Il avait 45 ans. Sa mort avait fait le tour du monde parce qu'avec lui, c'était toute une lignée qui s'éteignait en direct. Aujourd'hui, seules deux femelles représentent les dernières survivantes de cette sous-espèce, abritée et protégée dans la réserve de Lol Pejeta au Kenya. En somme, pourquoi se réjouit-on pour leurs cousins du Sud? Eh bien, parce que le parc de Kidepo, c'est en quelque sorte le crash test. Le crash test qui peut permettre à l'Ouganda de prouver qu'il peut protéger ses 8 nouveaux arrivants face aux braconniers, avec des rangers d'élite et du suivi satellite, alors que le parc pourrait devenir le futur refuge pour les bébés rhinocéros blancs du Nord. En effet, les scientifiques essayent de ramener cette sous-espèce à la vie par fécondation in vitro, avec des spermatozoïdes de rhinocéros blancs du Nord congelés, et avec l'aide de mères porteuses rhinocéros blanc du Sud. C'est donc une lueur d'espoir pour réparer nos erreurs passées. Après 43 ans de silence, les géants marchent de nouveau. Alors la prochaine fois que vous chercherez un symbole de résilience, tournez votre regard vers la vallée de Kidepo. Et quelque part, c'est un peu l'héritage du dernier mâle rhinocéros blanc du Nord qui continue de vivre à travers eux tous.
Et je te remercie à nouveau Vladimir qui a lu la chronique actu de Nancy qui est à l'étranger et que l'on salue. Tout de suite une nouvelle pause musicale et on va s'écouter Cairo Praktar de Muslim Gauze. We'll be right back. et c'était Chiropractar de Muslim Gauze. Vous êtes toujours bien sur Radio Campus Paris. Il est 19h33. On reçoit maintenant Antoine Dely dans le deuxième Zoom de ce soir. C'est tout de suite.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Et pour ce deuxième Zoom, on reçoit l'auteur, compositeur et interprète Antoine Dely. C'est Laetitia qui va nous présenter cette interview. Bonsoir Laetitia.
Bonsoir Tom. Alors, pour commencer ce Zoom, laissez-moi vous raconter une petite histoire. Ce week-end, je me suis rendue en Belgique pour la première fois. J'ai visité Bruxelles, j'ai mangé des frites et des gaufres, découvert la Grand Place. Bref, j'ai adoré ce séjour. Et sur le chemin du retour, pour rentrer en France, mon train a fait une escale à Mons. Et vous savez ce qu'il y a à Mons ?
Non, pas du tout.
Hier soir, à 20h, il y avait le concert d'un artiste talentueux, reconnu pour sa voix impressionnante, ses messages puissants et son univers à la fois unique et profondément humain. Révélé dans The Voice Belgique, finaliste de The Voice France et de la France à un incroyable talent, il a récemment sorti son nouvel EP intitulé Magnifiquement Beau, qui s'ajoute à toute une série de titres tous plus beaux les uns que les autres. Eh bien, figurez-vous que malgré son concert d'hier soir, cet artiste nous fait l'immense honneur d'être avec nous ce soir. Bonsoir Antoine Dely, merci d'être avec nous ce soir.
Bonsoir et merci pour cette belle présentation.
Avec plaisir. Comment ça va depuis hier? Comment ça s'est passé le concert hier?
Ben, c'était un super beau moment. Pour moi, c'est toujours très émouvant de chanter dans ma ville, surtout face à plein de gens que je connais depuis que je suis tout petit. C'était un très beau moment, j'ai adoré. C'était un beau show, plein d'émotions et j'ai hâte de chanter pour le prochain show.
J'imagine que ça doit faire très plaisir de se produire juste à côté de sa ville natale. Mais pour aujourd'hui, on a plein de thèmes à aborder.
Oui.
Je voudrais qu'on parle de tes morceaux, de ton parcours, de tes expériences, même de ta médiatisation. Si on a le temps également de ta voix, de ton chant et également de l'écriture de tes chansons. On verra si on a le temps, mais peut-être qu'on peut commencer par aborder ton EP Magnifiquement Beau qui est sorti il y a peu. Il reprend les principales chansons de ton aventure à la France à un incroyable
C'est
talent.
Ça, oui.
Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cet EP? Qu'est-ce qu'il représente pour toi?
Mais c'est un EP pour moi qui est très humain. Il regroupe plein d'émotions, de thèmes, de sentiments que l'humain peut vivre en général. Ça parle d'amour, ça parle de la peur de perdre quelqu'un. J'ai une chanson aussi je dis c'est ma chanson Carpe Diem parce qu'elle dit qu'il ne faut jamais attendre avant de réaliser les choses qu'on veut faire dans notre vie et avant de dire je t'aime aux gens qu'on aime.
Oui.
C'est un EP qui me ressemble, qui est à la fois, donc dedans il y a des chansons assez solaires et pétillantes et puis d'autres chansons un peu plus mélancoliques autour du piano. C'est deux facettes de ma personnalité qui font partie de moi et que j'aime mélanger en concert et aussi sur les albums. Et donc, c'est un EP pour remercier déjà le public qui m'a soutenu pendant aussi toutes ces années et aussi cette aventure d'incroyable talent. Parce que finalement, je dis que grâce à ce retour des gens, grâce au sourire que je reçois, au message que je reçois, je me sens un peu plus magnifiquement beau chaque jour. et c'est pour ça que j'ai voulu l'appeler comme ça.
Ouais, il y a une sorte de dualité, un peu comme les cheveux avec la partie noire, la partie blanche.
Oui, c'est vrai que là, pour ceux qui, enfin, les gens ne voient pas, mais j'ai une casquette, donc ça, on voit pas. Mais c'est un peu Cruella, quoi. Parfois, on me dit, je rentre dans une pièce, on me dit, tout le monde se lève pour Danette, quoi. Danette du haut. Voilà. Mais c'est vrai, j'adore. Je dis pas que je suis schizophrène, hein, mais j'ai un côté un peu, double personnalité. Ça a toujours été comme ça dans ma musique, dans mes émotions. Souvent je peux être hystérique de joie, danser sur la table et puis dans les cinq minutes qui suivent être dans un état de dépression ultime.
Bah, c'est ça qui rend les musiques belles au final, un peu cette dualité. Cette EP, ce n'est pas le seul que tu as sorti. Il y a eu aussi l'album Peter Pan en 2021, l'album C'est ma vie en 2022, l'EP Océan en 2023,
oui.
Supernova et les autres titres entre-temps. Chacun de ces sons marque une évolution dans ta carrière. Comment est-ce que tu décrirais ton évolution en tant qu'artiste depuis tes débuts?
Mais au départ, c'est vrai que je trouve que de toute façon, une identité évolue toute la vie, hein. Peu importe dans quel domaine de nos vies, on évolue toute la vie et c'est OK. C'est vrai qu'en tant qu'artiste, on évolue aussi. Moi, j'ai sorti mes premières chansons, j'avais 21 ans, je pense. Et donc, aujourd'hui, j'en ai 29. Donc, fatalement, on change. Et j'écrivais pas tant que ça au départ. Donc, j'ai aussi bossé avec beaucoup d'auteurs-compositeurs hyper talentueux. C'était un honneur pour moi. Barbara Pravi, Icar, j'ai bossé avec Marc Lavoine même. Aujourd'hui, j'écris beaucoup plus. J'aime travailler moi-même sur mes textes, sur mes mélodies, encore avec d'autres gens, parce que pour moi, faire de la musique, c'est le partage avant tout. J'aime pas m'enfermer dans une pièce et faire tout seul. Mais voilà, donc ça se sent aussi. J'étais très très pop au début, je le suis toujours aujourd'hui, mais avec des sonorités parfois un peu plus vintage, parce que moi je suis très fan de Bowie, de Freddie Mercury, d'Elton John, Michel Berger, et c'est vrai que je pense que ça s'entend aussi dans les chansons que je sors actuellement, qui sont beaucoup plus organiques, où on entend vraiment beaucoup plus les instruments, parce que c'est important pour moi aussi, peut-être aussi en opposition à ce qui se fait beaucoup aujourd'hui. J'aime bien toujours être en opposition à ce qui se fait. Pas juste parce que j'ai envie d'être en opposition, mais parce que j'ai toujours été comme ça depuis petit, quoi. Donc voilà.
Effectivement, je trouve qu'on entend beaucoup les sonorités des années 70, Elton John notamment, je suis vraiment fan. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui t'inspirent, hormis l'aspect artistique, des personnes de ton entourage qui peuvent t'inspirer pour l'écriture ou même quand tu chantes?
Je chante ma vie en fait, donc c'est-à-dire que c'est tous les événements que je vais pouvoir vivre. J'ai une chanson sur cette EP, On ne sait jamais, que j'ai écrite pour ma sœur. En fait, ça peut être une rencontre, ça peut même être une rencontre faite 5 minutes dans une journée qui va m'inspirer une chanson. Dans l'EP, j'ai rajouté une chanson à la dernière minute qui s'appelle Entre la terre et les étoiles, que j'ai écrite pour mon papy qui est décédé il y a un mois. C'est vraiment les gens qui m'entourent et qui m'inspirent. Moi, on me demande souvent, il y a une question qui revient souvent quand je suis en interview, c'est est-ce que tu préfères la Belgique ou la France? Et moi, je dis toujours, moi, mon pays, c'est les gens. Et c'est eux qui m'inspirent. C'est grâce à tous ces gens que je fais de la musique. Je pense que si je voyais personne, je serais pas du tout inspirée et je pourrais rien raconter, quoi.
Ouais, effectivement, ça se sent beaucoup que tu t'inspires de ce que tu vis au quotidien. Tu parles de thèmes très puissants, d'authenticité, d'identité beaucoup. D'amour pour ses proches, d'enfance aussi, et d'enjeux un peu plus sociétaux dans beaucoup de musique. Au final, j'ai l'impression que ça transparaît. Pourquoi ces thèmes en général?
Parce que pour moi, faire de la musique, c'est pas juste faire quelque chose de beau. J'ai besoin de partager des messages. Alors, ça peut être des messages par rapport à des sujets de la vie de tous les jours, mais ça peut être aussi très engagé, parce qu'on est dans une société qui est parfois ingrate, injuste. Il y a plein de choses qui se passent dans cette société qui sont graves. Et je trouve qu'en tant qu'artiste, avec la voix qu'on a et avec la médiatisation, etc., qu'on peut avoir, c'est important d'en parler. Et si on le fait grâce à l'art, je trouve ça encore plus beau. Donc, il y a des sujets qui sont importants. Le harcèlement, j'en parle beaucoup parce que je l'ai vécu enfant et puis encore là récemment sur les réseaux sociaux, les menaces de mort, etc. Et moi, j'ai envie de dire aux gens qui vivent la même chose et qui ne sont pas seuls, et puis aux gens qui harcèlent que c'est pas ok d'harceler. J'ai vraiment tendance à... Je me considère comme un artiste engagé, et c'est important pour moi, quitte à parfois déranger, je préfère ouvrir ma bouche et dire ce que je pense, plutôt que d'être parfois politiquement correct et laisser couler des choses qui pour moi sont injustes.
Ouais, autant être aimé par peu de personnes, mais aimé pour vraiment ce qu'on est, plutôt que...
Je disais, je préfère être... Il y a des gens, quand j'ai été harcelée, que j'ai commencé à j'ai sorti une chanson qui parlait de ça, il y a des gens qui m'ont dit « t'es mon héros, merci, j'ai vécu ça toute ma vie, je me sens écoutée, ça m'a aidé de t'entendre ». Et puis, d'autres qui m'ont insulté encore plus. Et j'ai dit que je préférais être adulée par certains, détestée par d'autres, plutôt qu'être entre les deux, on se dit « ouais, c'est pas mal ». Enfin bref, je trouve que c'est toujours mieux d'être clivant au final, plutôt que d'être dans un entre-deux qui finalement semi-intéresse les gens, quoi.
Ouais. Moi d'ailleurs, pour rebondir par rapport à ça, ma musique préférée de toi, c'est Des enfants qui jouent. Donc une ancienne musique, pas dans le nouvel EP. Elle me touche vraiment en plein cœur pour le sujet qu'elle aborde et l'intensité que tu y mets. Pour expliquer aux auditeurs, c'est une musique qui parle de harcèlement scolaire, oui. Du coup. Tu l'as écrite pour justement un peu aider les personnes qui sont dans la même situation que toi.
Bah alors justement, celle-là, je ne l'ai pas écrite. Ah. C'est une chanson qui a été écrite par Icar.
Ok.
Et voilà, c'est une des toutes premières chansons que j'ai choisies pour mon album. Cet album où j'écrivais pas encore trop mes chansons moi-même. Et donc voilà, il est arrivé avec cette chanson sur ce sujet que j'avais vécu. Je lui en avais parlé. C'est important pour moi parce que j'ai aussi fait des études d'instituteur primaire et parfois je voyais des enfants se comporter mal avec d'autres enfants dans la cour de récréation et j'entendais certains adultes, certains profs surveillants dire « Ah, mais il faut les laisser, ils jouent. »
Ouais, comme
mais
si
non.
C'était rien.
En fait, non, ils ne jouent pas. Dans cette histoire, il y a une victime et il y a un bourreau. Même si c'est un enfant, ça peut être un bourreau. Et donc, c'est important d'en parler et il y a plein d'enfants qui vivent ça et même plein d'adultes. Donc voilà, c'était important pour moi d'en parler en chanson.
Et justement, pour continuer dans ce thème de l'enfance, est-ce que tu peux nous raconter un peu qui était Antoine lorsqu'il était petit ? Est-ce que tu aspirais à une telle carrière ? Puisque comme tu l'as dit, tu as entamé des études d'instituteur, tu les as même finies. Donc tu te prédestinais à être devant une salle de classe et au final tu te tiens devant une salle de concert.
Alors j'avoue
comment
que la salle
comment ça se fait ?
J'avoue que la salle de classe c'était vraiment plus pour dire d'avoir un diplôme parce que pour rassurer les parents aussi. Après je savais pas trop ce que j'allais faire. De base je voulais plus faire du théâtre parce que j'ai fait vraiment beaucoup de théâtre dans mon enfance, adolescence, etc. Et puis la musique est venue comme une évidence un peu malgré moi. Et voilà, c'est au fil de mes expériences, des plateaux télé, des concerts, etc., des rencontres, managers, artistes, d'aller en studio, sortir un album, que finalement c'est devenu mon métier, mais je ne dois pas dire que c'était prévu et je ne pense pas qu'enfant, je savais que j'allais faire ça, quoi. Je rêvais d'un métier artistique, mais lequel précisément, je pense que je ne savais pas.
Ouais. Et justement, quand tu t'es inscrit pour The Voice Belgique, la première apparition médiatique, ta première apparition médiatique, comment tu t'es décidé, comment tu as sauté le pas et qu'est-ce que tu as ressenti la première fois quand tu étais sur scène ?
Ben en fait, j'avais chanté une ou deux fois sur une scène dans mon école, au collège. Et puis, j'avais vraiment bien aimé cette sensation quoi, de chanter devant des gens. Et il y a quelqu'un de mon village qui avait participé à The Voice Belgique l'année d'avant.
Incroyable.
Et ma mère m'a dit « ne le fais pas hein. ». Et je me suis inscrit et je lui ai dit « écoute maman, je suis pris, il faut que tu m'accompagnes parce que je suis mineure ». J'avais 16 ans.
Donc c'est toi qui t'es inscrit, ok.
Et je me suis inscrit. Et voilà, il s'était pas retourné. Et je l'avais refait l'année suivante. Encore une fois. Et là, je suis allée jusqu'en quart de finale. Donc voilà.
Ouais, incroyable. Et qu'est-ce que t'as ressenti quand t'avais fait retourner les quatre coachs en France ?
C'était dingue. C'était un moment un peu hors du temps. Je crois que quand on vit un moment comme ça, on a l'impression qu'on est... voilà, dans une bulle,
ouais,
c'est vraiment bizarre, comme dans un rêve. Mais au moment où j'ai chanté, j'ai pas trop regardé les coachs, j'ai surtout profité du moment et j'ai partagé avec le public qui était présent. Et puis, quand j'ai vu que tout le monde s'était retourné, j'avoue que j'étais un peu choquée.
Ouais,
mais voilà, c'est un souvenir. Je crois que ça restera un des souvenirs les plus forts que j'ai vécu jusqu'à maintenant.
Et ces émissions, elles t'ont permis de te révéler aux yeux du grand public. Toi, qu'est-ce que tu estimes qu'elles t'ont apporté ? Dans quelle mesure elles ont ouvert des portes pour la suite de ta carrière ?
Ben, déjà, ça m'a fait connaître. Et puis, pour le public, mais aussi pour le milieu. Grâce à ces émissions-là, j'ai pu rencontrer des gens, une équipe, des artistes avec qui maintenant je suis très souvent en studio, qui sont devenus des amis. Ça m'a permis de monter sur scène. Les premières années, j'ai fait une tournée qui s'appelait le Summer Tour avec d'autres artistes de The Voice, donc c'était mes premières scènes aussi. Et donc finalement, ces aventures-là, et encore incroyable, le talent dernièrement, ça m'a permis vraiment d'avancer au niveau humain, au niveau professionnel et voilà, de développer ma carrière comme ça, quoi. Donc c'était très riche pour moi.
On n'a plus beaucoup de temps. Je dois te poser une dernière question. Je vais choisir la question à propos du chant. Tu es aussi auteur et compositeur.
Oui.
On l'oublie souvent parce que du coup, tu as une justesse de voix incroyable, mais tu as aussi une justesse de tes mots qui est vraiment impressionnante et je pense que c'est ce qui fait ta particularité.
Mm-hmm. Merci.
Comment est-ce que toi, comment tu fais pour aller... écrire une musique qui va au plus proche de ton idée?
Ben j'avoue que bon, moi je suis nature peinture dans la vie et quand j'écris aussi, donc j'ai pas tendance à revenir sur des textes que j'ai écrits. J'aime que ça vienne naturellement et c'est l'instinct, et donc voilà, j'écris simplement comme je respire, je vais dire, et ça peut être dans des moments différents, le soir tout seul dans ma chambre en train de pleurer derrière mon piano, avec d'autres gens dans un studio, avec des amis dans leur salon, et voilà, je crois que c'est les événements que je vis et les instants que je vis chaque jour qui vont m'aider à écrire au plus proche de ce que je ressens et de ce que je vis dans ma vie. Voilà.
Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter rapidement pour la suite
De continuer à pouvoir faire ça et que mon concert à Paris demain, Théâtre de la Tour Eiffel à 20h, je le précise quand même, je fais la promo, se passe bien. Voilà, que je retrouve un peu ma voix parce que là, j'avoue que c'est un peu difficile.
Eh bien Antoine, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.
Ben merci à vous.
Toi, tu ne t'arrêtes jamais car tu es en concert demain déjà au Théâtre de la Tour Eiffel. Voilà, pour conclure ce Zoom, je ne peux que conseiller à nos chers auditeurs d'aller streamer tes sons qui sont tous magnifiquement beau.
Merci
en tapant
beaucoup.
Antoine Dely sur n'importe quelle plateforme de musique, ils trouveront. Et en attendant, on vous propose de vous laisser transporter par On ne sait jamais, un de ces titres poignants qui parle de l'amour que l'on a envers ses proches et l'importance de les chérir tant qu'il est encore temps.
On se dit qu'on a le temps, la vie pour en profiter, tout se casse en un instant, on n'en a pas eu assez. On se dit qu'on voit loin, rien ne peut nous arrêter. C'est quand on va trop bien que la peine vient nous caresser. On ne sait jamais si c'est la toute dernière fois. On ne sait jamais. On ne sait jamais si c'est la toute dernière fois. Même s'il faut le dire tout bas, je n'attends, je n'attends, je n'attends, je n'attendrai pas. On se dit qu'on a tout, puis tout nous file entre les doigts. Ça n'arrive qu'aux autres, cette fois les autres c'est moi. J'aimerais pouvoir juste une seconde relire les lignes de ta main, qu'elle me rassure, qu'elle me dise, mon frère tout va bien. On ne sait jamais si c'est la toute dernière fois. On ne sait jamais. Oh, 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 oh. On ne sait jamais si c'est la toute dernière fois. Même s'il faut le dire tout bas, je n'attends, je n'attends, je n'attends, je n'attendrai pas. Tous les mots restés sur mes lèvres, tous les gestes que je n'osais faire, je te les envoie. N'attendrai pas. On ne sait jamais si c'est la toute dernière fois. On ne sait jamais. Oh, 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 oh. On ne sait jamais si c'est la toute dernière fois. Même s'il faut le dire tout bas, je n'attends, je n'attends, je n'attends, je n'attendrai pas. On ne sait.
Et c'était On ne sait jamais de Antoine Dely qui était avec nous dans ce Zoom il y a quelques minutes. Il est 19h53 et vous êtes sur Radio Campus Paris. On va passer à la chronique libre de Fabien désormais qui nous a concocté un petit vrai ou faux sur l'actu.
La matinale de 19h, 93.9 FM.
Et oui, bonjour. Et donc, nous sommes le 1er avril. Donc, je vous ai concocté quelques petites infos qui sont vraies ou fausses. Et il va falloir deviner. On commence tout de suite avec au printemps. Donc, c'est la RATP qui a surpris les usagers en annonçant la création de sa propre compagnie aérienne 100% électrique. Présentée comme une extension logique de son offre de mobilité, le projet évoque des liaisons directes entre Paris et plusieurs destinations européennes dans des avions fonctionnant entièrement et à l'électricité. Baptisée RATP, la nouvelle compagnie proposera des vols au départ de Paris avec un concept inspiré des transports au quotidien. Les passagers pourront ainsi embarquer avec leur passe Navigo, tandis que les avions seront pensés comme une continuité du réseau francilien. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ?
Totalement faux.
Faux. Je pense que c'est faux.
Je pense que j'en aurais entendu parler.
Oui. Effectivement, c'était faux. Burger King va lancer un Whopper pour gauchers. Un burger avec les mêmes ingrédients mais qui seront retournés de 180 degrés pour être adapté à arrête de regarder au gaucher. Ce sera dans un premier temps une opération limitée afin de tester l'attrait des clients et de voir l'impact de cette nouveauté. Si ça fonctionne, vous pourrez le retrouver dans tous les Burger King de France. Dans l'immédiat, il n'est disponible que dans le Burger King de la Gare du Nord, le seul où on trouvait le fameux burger au Marouaille. Vrai ou faux ?
Peut-être vrai, je dirais.
Moi j'ai triché. Donc...
Il y a moyen que ce soit vrai.
Ah, je sais pas.
Aucune idée.
Vrai. Disons vrai.
Ouais, disons vrai.
Vrai.
Sérieusement ? Sérieusement ? Ben non, évidemment que c'est un burger pour gaucher, vous imaginez ?
Mais non, mais c'est bizarre, je comprenais pas pourquoi un burger, il n'y a pas un sens.
Bah, forcément, c'était énorme.
Ben oui.
C'est faux, évidemment. Ils vont pas retourner les ingrédients, il n'y a pas de sens pour un burger.
Non, c'est bizarre.
Alors là, par contre, sur celui-ci, je pensais vraiment pas que. Je pensais vraiment pas que j'allais vous piéger. Dans un parc au sud de Londres, à Brixton, un écureuil gris a été aperçu en train de manipuler une cigarette électronique. Tenant l'appareil entre ses pattes, perché sur une barrière, l'animal semble mâchouiller l'embout en plastique de la vapoteuse qu'il retourne sans cesse. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ?
Ça, c'est vrai. Ça, c'est
non, je te dirais vrai.
C'est sûr.
Alors,
je suis sûr que c'est vrai. Moi, je pense que c'est vrai.
Et bien, malheureusement, c'est vrai. C'est depuis l'année dernière, la vente et l'offre gratuite de cigarettes électroniques jetables sont interdites au Royaume-Uni sous peine d'une amende de 200 livres et de 2 ans de prison. Mais ces objets continuent de polluer et on en retrouve partout dans les parcs. Malheureusement, c'était vrai. À Paris. Non, pas celui-ci. Il n'est pas bien. Privé d'essence en raison d'un embargo pétrolier renforcé de Trump sur l'île des Caraïbes, Juan Carlos Pino a transformé sa vieille Fiat de 1980 pour la faire fonctionner au charbon. Un système artisanal entièrement conçu à partir de matériaux de récupération qui permet de produire un gaz combustible injecté dans le moteur à la place de l'essence. Selon ses premiers tests, la voiture est capable de rouler à 70 km sur une cinquantaine de kilomètres. C'est peu, mais c'est mieux que de rester immobilisé. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ?
Vrai.
Vrai.
Et c'est vrai. Tout à fait. C'est bon ?
Ouais. Merci beaucoup Fabien pour ce petit quiz. À vous de juger si on s'en est bien sorti ou pas. La matinale de 19h de ce mercredi 1er avril, c'est terminé. Merci à nos invités, Madeleine Varin, je l'ai bien dit à nouveau, qui est venue nous parler du Susur Festival. Merci à Antoine Dely, qui est venu nous parler de son dernier EP. Merci bien sûr à tous nos bénévoles qui ont assuré l'émission de ce soir. Serge et David à la réalisation. Au premier Zoom, c'était Betty. Au second, c'était Laetitia. Vladimir au Flash Info. Nancy qui a écrit la chronique actu. Fabien pour cette super chronique libre. Merci à vous d'avoir écouté. Merci pour votre fidélité. Rendez-vous demain à 19h. Pour la prochaine matinale de Radio Campus Paris. Je vous souhaite une bonne soirée.